soit vous ne comprenez rien. Donc, j'espère que c'est... si vous n'avez pas de questions. On dirait que Magali... Ah oui, Magali. Magali, tu es là?
Oui.
J'essayais d'occuper le terrain pendant que j'imagine que tu étais en train d'essayer de sauvegarder le fichier.
Mais je crois que c'est foutu encore.
C'est pas grave. On fera une session d'enregistrement. Là, on va dire que c'est une répète là.
Voilà. Répète.
Hein? Donc, on était en train de parler de la quantité de mouvement. Voilà. Et en disant que c'était des flèches parce que ça n'avait pas de sens la masse, mais par contre la vitesse, elle a une direction et un sens, et la quantité de mouvement aussi. Mais on ne va pas spécialement en parler aujourd'hui de ça, parce que ça ferait vraiment trop de concepts introduits d'un seul coup. Alors, slide suivante. Mais nous allons arriver au carreau, ne vous inquiétez pas, on va arriver au carreau. Alors, en fait... qu'est-ce qui se passe déjà grâce à Galilée? On peut comprendre ce qui se passe avec le rebond d'une balle. Donc, si on lance une balle vers un mur, type super balle bien dure, etc., ou une bille en verre, on s'attend à ce que la balle ou la bille reparte en arrière avec la même vitesse, dans l'autre sens. Voilà. Donc, ça, c'est la situation A. Alors, la situation B, c'est, on va considérer que cette fois-ci, c'est le mur qui avance, mais au lieu d'aller à la vitesse V, donc il va à la vitesse moins V, c'est-à-dire qu'il va dans l'autre sens et il s'approche de la balle. Donc, qu'est-ce que nous dit le bon sens? Ben, il nous dit que quand le mur va toucher la balle, il va pousser la balle et que la balle va aller à la même vitesse que le mur. Mais ce n'est pas ce que nous dit Galilée. Alors, slide suivante. Grâce à quelque chose qui s'appelle le changement de référentiel, on se rappelle que, quel que soit l'endroit où on regarde les choses, tant qu'on est à une vitesse constante, tout se passe de la même manière, la physique est la même. Donc, considérons la situation 1, où on est debout à côté de la balle immobile, alors que le mur s'approche à moins V. Et puis la situation 2, où cette fois-ci, on est assis sur le mur et on regarde la balle s'approcher à plus V. Donc, la balle s'approche vers nous. Quand c'est vers nous, c'est plus. Et puis, quand pour la balle, c'est dans l'autre sens, c'est vers la balle, c'est moins V. D'accord ? Alors, la situation 1, en fait, correspond à la situation B, hein, qui était le mur s'approche de la balle. Au lieu qu'on lance la balle vers le mur, c'est le mur avance vers la balle. D'accord ? Alors, et donc la situation 2, où on est assis sur le mur et on regarde la balle s'approcher, ça correspond à la situation A, où on lance une balle vers le mur. Et nous, on est posé contre le mur ou au-dessus du mur et on regarde ce qui arrive. On voit une balle arriver à plus V, repartir à moins V. Mais comme la situation A est comme la situation 2, eh bien, en situation 2, voilà, la balle repart à moins V. Et comme on vient déjà de discuter qu'un changement de référentiel, ça ne changeait pas la physique, eh bien, la physique est la même en situation 2 et en situation 1. Donc, la balle doit aussi repartir à moins V par rapport au mur, qui lui-même va déjà à moins V. Hein ? La situation 1, on est bien d'accord, c'est... on est à côté de la balle immobile et le mur s'approche à moins V. Mais c'est la même que la situation où nous, on est immobile sur le mur et on voit la balle s'approcher à plus V et repartir à moins V. Donc, en fait, si on est au niveau de la balle, eh bien, la balle doit repartir à moins V, moins V. Donc, en fait, à moins 2V. Moins V plus moins V. Donc, en fait, une balle frappée à une vitesse V, alors qu'elle est immobile, va partir à une vitesse 2V. C'est le cas du service d'un joueur de tennis. Alors, on va se faire un petit comment ça s'appelle, une petite Madeleine de Proust avec Roland Garros, avec les slides suivants. Donc, les slides suivantes, c'est une sorte de film. Hein. Donc, on voit Rafael Nadal qui est en train de servir un ace. Donc, la photo, là, c'est la balle juste prise avant qu'il la frappe. On le voit en position. Suivante. Voilà, là, il est en train de sauter. La balle a à peine bougé. La raquette est prête à frapper. Et image suivante. Voilà, alors sur cette image, on s'arrête un tout petit peu. On arrive à voir la trace de la balle. La balle va tellement vite que pendant le temps que... Puisqu'un film, c'est jamais que des images, les unes après les autres, pendant le temps que cette image est prise, eh bien, ça fait un trait. On le voit, ce trait. Et puis, en même temps, on voit ce trait-là. Et puis, on voit en même temps aussi un trait plus faible qui est fait par le manche, en fait, de la raquette de Rafael Nadal. Donc, ce qu'on constate, c'est que la raquette va moins vite que la balle. Alors, en fait, la raquette va deux fois moins vite. Mais ça, je ne peux pas vous le prouver. C'est M. Galilée qui le dit. Et ce qui se passe, c'est que la balle était immobile, elle est frappée par une raquette qui va à peu près à 100 km/h, ce qui est quand même assez fort. Enfin, le bout de la raquette va à 100 km/h. Il y a un effet de levier, un peu comme le propulseur des hommes préhistoriques. Donc, Rafael Nadal est le digne descendant des chasseurs de mammouths. Sauf que lui, ce n'est pas le mammouth qui chasse, c'est le million de dollars. En faisant le grand chelem et tout ça. Et donc, il y arrive. Et sa balle va à 200 à l'heure au départ. Voilà, donc slide suivant, juste pour le plaisir. Voilà, donc voilà, la balle est bien partie et je vous laisse regarder. C'est donc 1er juin 2015 sur YouTube, vous verrez comment le gars il voit rien passer en face. Voilà, très bien. Donc vous pourrez aussi vous le repasser. On passe à la slide suivante, voilà, et on arrive au carreau. Donc on va comprendre comment ça fonctionne le carreau à la pétanque. Donc, là aussi, c'est un petite Madeleine de Proust parce que la compétition de la Marseillaise de boules, compétition mondiale, n'est-ce pas, de boules, a été annulée à cause du coronavirus. Donc, on n'a pas que les fanatiques de tennis qui sont désappointés, aussi ceux de pétanque. Mais bon, on peut quand même y jouer aussi. Alors, donc, si on imagine qu'on lance deux boules frontalement l'une contre l'autre, eh bien, on imagine qu'elles vont se choquer et repartir en arrière. Si les boules sont bien dures, vous pouvez vérifier, elles vont perdre quasiment pas de vitesse. Donc, on va voir les boules repartir pratiquement à la même vitesse. Bon, ils perdent toujours un petit quelque chose, parce que ne serait-ce que le bruit que ça fait, le choc, ça dépense un peu d'énergie. Bon, ok. Maintenant, si je change de référentiel, c'est-à-dire que je me mets sur la boule de gauche, alors je vois arriver la boule de droite à deux fois la vitesse vers moi. C'est normal, puisque moi, je me déplace d'une certaine vitesse V, et l'autre boule se déplace d'une autre vitesse V dans l'autre sens. Donc, si moi, je suis sur la boule, ou j'avance à côté de la boule, je vois l'autre boule arriver à 2V. Hein ? En fait, je vois quelqu'un qui est en train de tirer. Hein ? Et en restant dans ce référentiel-là, eh bien, je vais partir à moins 2V alors que la boule de droite s'arrête. C'est ça le carreau. Donc, en fait, le carreau s'explique simplement en changeant de référentiel. Si on est dans le référentiel où les deux boules vont face à face à la même vitesse, eh bien, on comprend bien qu'elles repartent dos à dos avec la même vitesse. Et si on est dans le référentiel où une des boules est immobile, eh bien, en fait, une des boules, celle qui va vite, transfère tout son mouvement, donc toute sa quantité de mouvement, en fait, à l'autre. Et du coup, elle n'en a plus. Voilà. Alors, pour ceux pour qui c'est nouveau, je vous laisse méditer et revoir ces slides tranquillement ensemble. D'autant plus que si j'avais avancé l'horaire, c'est parce que j'avais des contraintes personnelles à 11h et qui est 11h moins 10, donc j'ai plus beaucoup de temps. Donc le dernier slide, c'est justement pour faire le lien avec la semaine prochaine. Eh bien, cette histoire de raquette de tennis et de balle qui part deux fois plus vite que la vitesse de la raquette, ça nous permettra d'expliquer par exemple les vestiges de supernovae. L'accélération des rayons cosmiques. On verra aussi quelque chose qui permet d'expliquer comment ça fonctionne les explosions, que ce soit une explosion de supernova ou tout simplement une explosion de fusée du 14 juillet ou encore autre chose, un tir de boulet de canon avec la poudre qui explose à l'intérieur du canon. Et puis, on pourra aussi expliquer comment fonctionnent les fusées. Et tout ça, de nouveau, grâce à Galilée, grâce à Newton et évidemment quelques autres personnes qui ont contribué à tout ça, à la compréhension de tout ça. Voilà, je vous avais aussi envoyé un petit quelque chose pour vous donner une petite saveur de comment je voyais la suite. Hein, donc, ça, c'est l'étape suivante. Mais là, déjà, on a fait du progrès. On est parti des chasseurs de mammouths et on est arrivé à Raphaël Nadal. J'ai fini pour aujourd'hui. S'il y a des gens qui ont des questions ou des remarques, je suis preneur, bien sûr. Que ce soit directement là, maintenant ou plus tard en offline. Donc, Magali, je ne sais pas.
Fabrice ?
Oui ?
C'est Philippe, bonjour.
Oui, c'est Philippe.
Ton exemple des balles, moi, il me fait penser à un accident frontal entre deux voitures où
oui.
Une fois, on se croit en sécurité à 50 à l'heure. Mais c'est vrai que si on fait un frontal avec une autre voiture qui est à 50 à l'heure aussi, ça fait des dégâts. Voilà, ça m'a fait penser à ça.
C'est vrai aussi que… Mais alors là, contrairement aux balles de… ou aux boules de pétanque, ce n'est pas un choc qu'on appelle élastique en termes de physicien. C'est un choc qu'on appelle un choc plutôt mou. Et les deux voitures vont se retrouver imbriquées l'une dans l'autre. Et en fait, ça, je n'en ai pas du tout parlé parce que c'est difficile de parler de tout ça en même temps. Je n'ai pas parlé encore d'énergie véritablement. Mais là, on comprend bien que l'ensemble des deux voitures va se retrouver à l'arrêt, alors qu'avant, il y avait deux voitures qui roulaient, toutes les deux, même si elles roulaient face à face. Et donc, toute l'énergie du mouvement de ces deux voitures a disparu et s'est transformée en énergie qui a tordu la tôle, cassé les membres, voire les organes internes des conducteurs et passagers. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Philippe ?
C'est par rapport au cumul des vitesses, en fait. C'était ça, surtout.
Oui, bien sûr, bien sûr. En effet, la vitesse relative…
En effet, je roule à 50.
Si tu veux dire que… Là, je suis entièrement d'accord avec toi, de toute façon. En effet, ce qui compte, ce n'est pas que tu roules à 50 à l'heure, c'est que tu roules à quelle vitesse par rapport à la voiture qui va te rentrer dedans.
Exactement.
Si toi, tu roules à 10 à l'heure et que la voiture en face, elle roule à 100 à l'heure, tu te prends un choc à 110. Et t'as beau rouler à 10 à l'heure, tant pis pour toi. C'est même pire si tu roules à 10 à l'heure dans l'autre sens et qu'elle est à 100, et bien elle va te rentrer dedans à 90 à l'heure en relatif. Tu vas être très mal aussi, bien que tu essayais malheureusement de t'échapper. On est bien d'accord. Ce qui compte, c'est la vitesse relative. Voilà. Alors, évidemment, si tu roules à 10 à l'heure en char Leclerc et qu'en face, il y a un vélo à 100 à l'heure, tu rentres dedans, on voit aussi que les effets seront différents. Hein, donc, il y a aussi quelque chose qui est lié à la quantité de mouvement. La quantité de mouvement du char est bien plus grande, même s'il va moins vite, parce qu'il est beaucoup plus massif.
Exactement.
Et donc, il sera moins affecté. Mais tout ça, ce sont encore des effets que je ne peux pas commenter en moins d'une heure, parce que sinon, là… Il faudra qu'on en reparle avec des exemples bien réfléchis, bien proches du quotidien. En tout cas, j'espère que je vous ai fait sentir la notion d'inertie, ne serait-ce que si vous avez déjà eu à louvoyer dans le supermarché le samedi après-midi, alors qu'il y a de plus en plus de monde et que votre caddie est de plus en plus plein et qu'il y a des enfants dans tous les sens, vous n'essayez pas les renverser avec votre caddie bien rempli. Vous avez constaté que plus il est rempli, plus il est difficile de le faire changer de direction ou de l'arrêter brutalement. Et ça, c'est parce qu'il a de plus en plus d'inertie. Alors, vous n'en rendez pas toujours compte au moment où vous le démarrez, parce que vous poussez un peu plus fort, mais vous prenez votre temps. Mais au moment où il faut l'arrêter brusquement, là, vous vous en rendez compte d'un seul coup. Et c'est aussi pour ça que il est toujours conseillé d'avoir une voiture d'assez grosse cylindrée si on veut tracter une caravane parce que il faut pouvoir déjà démarrer de façon pas trop lente, mais aussi avoir des freins qui sont suffisamment puissants, qui vont en général avec la voiture de grosse cylindrée, pour pouvoir exercer la force qu'il faut pour arrêter à la fois la voiture et la caravane, sans trop de temps. Parce que la quantité de mouvement, cette fois-ci, ben, c'est sûr que vous êtes toujours peut-être en respectant les limitations de vitesse, mais si quelqu'un, si vous devez vous arrêter brutalement pour des raisons d'urgence, alors que vous êtes à 130 sur l'autoroute et que vous tractez une grosse caravane, eh bien, vous allez devoir appuyer bien plus fort sur les freins. Et vous allez vous faire peur. Même si vous respectez les limitations de vitesse. Donc, c'est ça qui se cache derrière les questions d'inertie et de quantité de mouvement. C'est tous ces phénomènes-là qu'on connaît bien, mais sur lesquels on n'est pas toujours habitué à mettre une étiquette simple et quantitative. D'autres remarques ou suggestions ? Eh bien, sinon, on va ajourner. Magali, tu...
Merci beaucoup, Fabrice. Oui, ben, écoute, j'espère que l'enregistrement a fonctionné. Ouais. Mais comme tu dis, Toinière, ce n'est que partie remise pour voilà.
Nouvelle J'espère. Voilà.
Ouais. Merci. Merci à tous. Donc, a priori, la semaine prochaine, tu maintiens le rendez-vous à 11h ou pas ?
Oui, là c'était spécial de 10h.
Okay.
Sauf s'il y a plus de gens qui sont finalement intéressés. Parce que ce que j'ai constaté, c'est que c'était un petit peu serré entre 10h et 11h le mardi. Et qu'il y a beaucoup de gens qui ont voté pour 11h, mais qu'on ne voit jamais. Alors peut-être que finalement 10h c'est mieux. Hein. On peut refaire un sondage. Hein. Moi ça ne me gêne pas du tout 10h ou 11h. C'est ce qui convient le mieux aux collègues.
Déjà, ceux qui sont présents, qu'est-ce que vous préférez ?
Ils vont dire que 10h, ça leur va, puisqu'ils sont là.
Non, mais justement, est-ce que 10h ou 11h est préférable pour eux ?
10 ou 11, ça va. Pareil.
Pour moi, il se trouve juste qu'aujourd'hui, ma fille est retournée à l'école et je dois la récupérer à 11h30, donc 10h, c'était parfait. Sinon, c'est normal.
Bon, en principe, 10h, c'est mieux, hein. En principe, parce que 11h, on s'approche de midi après, les gens ont faim, ils ont éventuellement d'autres choses à faire, en effet, à s'occuper de leur famille, par exemple. Donc, 10h, c'est mieux. Hein. Après, on peut aussi couper la poire en deux et faire 10h30, hein. Il n'y a rien qui nous empêche. Mais, je ne sais pas, Magali, c'est toi qui vois, hein, si tu veux réorganiser un petit sondage rapide.
On pourra peut-être en parler en réunion générale, justement. Ou je ferai un sondage, je vais voir.
Oui. En général, tu ne vas pas avoir des gens qui vont s'exprimer de façon mesurable.
Oui.
Bon, en tout cas, j'insiste. Hein, moi, je suis toujours intéressé à avoir un retour et des idées, des suggestions. Tiens, tu aurais pu parler de ça aussi ou ça, ça a été un peu rapide, j'ai eu du mal à suivre dans telle transition. Enfin, moi, ça m'intéresse toujours, ça.
Fabrice ?
Oui.
À l'allure où évoluent les choses, je pense qu'on ne devrait plus trop tarder à revenir au labo, tous, je pense, je ne sais pas. Mais tu vas continuer après ?
Alors,
parce que ça va changer les conditions. Là.
Bien sûr, écoute, on verra. Moi, j'ai l'intention de continuer, mais je peux continuer à une vitesse plus lente si les choses varient. C'est tout à fait adaptable. Hein. Pour l'instant, le rythme d'une semaine, enfin, quand même, vous imaginez que préparer ça, ça me prend plus qu'une demi-journée. Donc, c'est sûr que là, j'arrive à trouver le temps. J'aurais peut-être du mal à trouver le temps. Et puis, il va y avoir une interruption pendant les grandes vacances aussi. Donc, disons que pour l'instant, juin, je pense que jusqu'à fin juin, début juillet, jusqu'à la première semaine de juillet, je dois pouvoir tenir avec une intervention par semaine. Et ça m'étonnerait que le labo, parce que c'est pas parce qu'on déconfine et que la règle des 100 km saute et tout, dans toutes les administrations, il va nous être dit restez chez vous autant que possible, tout le temps, pour cette histoire de diminuer l'éventuelle propagation d'une deuxième vague. Donc tous les gens.
Je trouve qu'il y a de plus en plus un décalage entre ce qu'on entend et ce qu'on applique nous. C'est un peu bizarre pour moi.
Mais en tout cas, le CNRS, il dit, et l'université aussi, disent restez chez vous autant que possible. Enfin, ça nous dépasse, hein, on s'adaptera. S'il y a un intérêt, moi, je continuerai avec plaisir. Je pense que j'ai de la matière pour une dizaine de chroniques, d'ordre de grandeur. Donc, faut que je vous abandonne pour des raisons personnelles, moi aussi. Donc, merci à tous et à la semaine prochaine. Alors.
Merci Fabrice, à la semaine prochaine.
Merci,
au revoir.
Au revoir.
Merci Fabrice, merci Magali, au revoir.
Merci.